consacré à la sculpture antique, en voyant une œuvre dont vous vous souvenez, je pense.
Oui.
C'était quoi?
L'Arapacis.
Cet Arapacis, Arapacis comment?
Augustae.
Vous pouvez me rappeler, grosso modo, sa date, et en tout cas la période à peu près où il a été fait, et à quelle zone culturelle, ou quelle période, enfin, quelle période culturelle il appartient?
Premier siècle.
Avant, après?
Avant.
Premier siècle avant Jésus-Christ.
Sous le règne d'Auguste.
Sous le règne d'Auguste, et donc l'ère culturelle à laquelle il appartient, c'est l'Empire romain. Enfin, on est dans le monde romain. Bien. À la fin de la séance, on avait vu comment l'Arapacis Augustae était très représentatif de l'art romain autour de deux éléments essentiels sur lesquels joue beaucoup, si j'ose dire, l'Arapacis. Ce sont lesquels?
Le réalisme.
Le réalisme, mais à travers quoi, précisément? À travers le portrait. Hein. L'art romain, c'est beaucoup le portrait, non pas que les Romains aient inventé le portrait, mais le portrait est un élément capital dans l'art, en particulier dans la sculpture romaine, absolument. Et on avait vu à quel point le portrait était représenté dans l'Arapacis, hein, les deux grandes processions des côtés. Il y avait un autre élément très représenté dans l'Arapacis. C'était quoi l'autre élément phare, dirais-je, de la sculpture romaine?
La mythologie.
Peut-être pour aller un petit peu plus largement que la mythologie, je vous avais montré tout à la fin toute une série d'éléments un peu du même genre. Alors, je vous avais montré, on avait vu que ça représentait la fondation, ça c'est de la mythologie par exemple. Hein. Donc on avait vu en effet les reliefs de l'Arapacis, mais après je vous avais montré, venant d'autres monuments, colonne Trajane, arc de Titus, etc., d'autres éléments qui répondaient finalement au même genre de thème.
La mise en valeur de Rome, là.
Oui, mais on a parlé du portrait d'un côté, hein, et d'un autre côté, là, on ne parle plus de sujet, on parle de genre artistique.
Mais beaucoup d'éléments décoratifs.
Alors, décoratif, c'est peut-être un peu plus que décoratif. Hein, rappelez-vous la représentation de Tellus, la fondation de Rome, etc., ou les reliefs de la colonne Trajane. Ce sont tous décoratifs, mais ça fait plus que décorer.
Avec les... C'est avec les végétaux, avec les...
Non, c'est le rattachement de Rome à Troie.
Ah oui.
Ok, mais là, vous restez dans le... Comment dire? Non, c'est fermé, ça. Non, c'est pas fermé. Là, vous restez vraiment dans l'iconographie, mais au niveau du genre artistique, on parle du portrait d'un côté, on n'a pas dit que ça représentait Augustici, Agrippa, Agrippine l'Ancienne, Livie. C'est le genre du portrait en général. Donc le portrait, le genre du portrait, c'est un grand élément essentiel de l'art romain. Mais il y a un autre élément essentiel aussi large, pas simplement la fondation de Rome ou... En effet, la question des reliefs, d'accord, mais des reliefs qui représentent quoi? Par exemple, Tellus d'un côté, ou la colonne Trajane qui représente, vous rappelez, les conquêtes sur les Daces. C'est quoi ça?
Des scènes, quoi?
Des scènes, c'est des petits jardiniers qui plantent des tomates?
Des scènes historiques.
Hein. Alors, c'est l'histoire réelle, ou c'est l'histoire mythologique, mais c'est de la scène historique. Hein. Voilà. Ça, c'est les deux éléments importants. Hein. Vous voyez, on sort un peu de petits détails, ils représentent telle chose. Non, on est dans quelque chose de beaucoup plus large. L'art romain, il se caractérise, si vous voulez, autour de deux grands domaines, deux grands genres artistiques. Le portrait, alors après, il y a les portraits de 1000 personnes, hein, ok? Et le relief historique, qui est l'autre grand domaine. Hein. Alors, les histoires, elles sont soit mythologiques, soit vraiment tirées de la réalité de l'histoire romaine. Hein. Le portrait, le relief historique, c'est deux des grands éléments essentiels, originaux, de l'art romain. Et l'Arapacis Augustae, ne montre que ça. Hein. Vous avez raison de dire qu'il y avait également tout le répertoire décoratif, ce serait peut-être un troisième genre autour duquel on pourrait souligner l'importance de l'art romain. Vous vous rappelez de ce qu'on avait vu en bas de cette Arapacis? Effectivement, c'était un élément important. Voilà, grosso modo, pour résumer l'atelier précédent qui nous a permis, de manière très synthétique, hein, d'évoquer l'art romain, on y reviendra sans doute, hein, l'originalité de l'art romain. On avait d'ailleurs dit quelque chose tout à fait à la fin de l'atelier la dernière fois. Je vous avais montré plusieurs statues, et qu'est-ce qu'on avait vu à partir de ces statues, rappelez-vous ?
Les statues qui venaient de grecs, qui étaient les listes, qui avaient été
oui. des copies. Oui, alors qu'est-ce qu'on avait dit à propos
de ces statues ? Et qui étaient des copies, oui. il y avait des copies...
Et des copies de quoi, par quoi ?
Des Vénus.
Oui,
Vénus
d'accord, mais elles étaient des copies... C'est des copies. Moi, vous savez, il faut tout m'expliquer, parce que moi, je ne comprends rien. Voilà. C'est des copies grecques Grec.
Non, deux statues.
C'est des copies romaines, deux statues grecques. Voilà. C'est important de bien se dire, parce qu'on est dans des questions compliquées. Hein. Évidemment, à la fin, on avait vu des œuvres qui étaient des copies romaines de statues grecques, et on avait vu comment beaucoup des statues réalisées à l'époque romaine étaient en fait, généralement, hein, des copies réalisées décidément à l'époque romaine d'après des originaux grecs. Okay. C'est-à-dire autant le relief historique ou le portrait sont des choses où les Romains ont fait preuve d'une immense originalité, ils ont beaucoup développé ces domaines-là, autant la question de la statuaire est une question où là on a beaucoup repris ce que les Grecs avaient pu réaliser. Okay. Voilà grosso modo le résumé de la séance dernière. Alors, on va très vite passer sur nos petites règles habituelles. Hein. Vous les connaissez, hein. On va suivre une méthodologie, on ne va pas hésiter à prendre la parole, limiter nos commentaires, ne pas utiliser Internet, qu'on ait une chance s'abstenir. Aujourd'hui, avec l'œuvre que je vais vous montrer, j'ai pas trop de problèmes ni de craintes sur ce côté-là, parce que ce qu'on va montrer aujourd'hui est une œuvre relativement peu connue. Je pense que là, ce sera problématique. Alors, vous avez bien eu là. Hein. Compliqué là. Hein. Ah oui, pas facile. Ah mais je l'avais dit, ces ateliers exigeants. Hein. Alors, qu'est-ce que ça peut être de cette sculpture que vous avez devant les
Vénus.
Une Vénus. Donc c'est une sculpture romaine.
Ah
ben si vous dites que c'est Vénus, c'est que c'est une culture romaine.
C'est Aphrodite
ou c'est Vénus. Attention, c'est un atelier d'histoire de l'art. On n'est pas là à divaguer. On se rappelle des petites règles. Hein. Donc soit c'est Vénus, soit c'est Aphrodite. On va c'est Aphrodite pas, hein. Alors c'est Vénus ou c'est Aphrodite ?
Aphrodite.
C'est la Vénus d'Arles.
La Vénus ?
C'est pas celle-là, aussi.
Pardon ?
D'Arles ?
Oui. La Vénus d'Arles ? Cette statue, on l'appelle la Vénus d'Arles.
Oui. Je ne sais pas
si oui, ça, je la connais aussi, mais je suis aussi affirmative.
Mais je suis affirmative.
Je suis en réunion. De cœur.
C'est l'Aphrodite de Cnide ?
Ah oh ben, comme ça.
C'est pas la
Vénus des cailloux dans l'eau.
Pardon.
C'est la Vénus de Milo.
C'est la Vénus de Milo ?
Oui, ça pourrait être la Vénus de Milo.
C'est pas la Vénus de Milo.
Ah
ben, on va voter. Qui dit que c'est la Vénus de Milo ?
Non.
À part le bras.
Non, mais il m'a donné des bras.
Personne ne pense que c'est la Vénus de Milo.
Si
vous. Alors, levez les doigts ceux qui pensent que c'est la Vénus de Milo. Mais bien, que levez les que je vois. Donc il y a 1, 2, 3 personnes pour qui c'est la Vénus de Milo. Voilà. Donc pour les autres, c'est pas la Vénus de Milo. Alors c'est quoi ? C'est une Vénus, donc c'est une statue romaine. Voilà. Donc on a une statue romaine qui représente Vénus. Vénus, c'est qui ? Oui, mais ça, c'est...
Pas... C'est la déesse de la
beauté. Encore une fois, vous tout m'expliquer.
La déesse de la beauté.
Ça a déjà voté. Chez les Aztèques.
Chez les Romains.
Chez les Romains. Moi, il faut me préciser, parce qu'on ne voit pas.
De la beauté.
Donc, Vénus est la déesse de la beauté chez les Romains. Très bien. Donc on a là une statue qui représente Vénus et qui est la beauté, la déesse de la beauté chez les Romains. Qu'est-ce qu'il nous dit que c'est Vénus ?
Elle. Oui, elle est belle.
Elle est belle. Parce que toutes les autres déesses sont moches.
Non, elle est dénudée.
Elle n'est pas casquée déjà.
Ah, elle n'est pas casquée. Donc Zacha élimine qui ?
Athéna.
Ça élimine Athéna.
Ou Minerve.
Elle n'est pas opulente, donc ça élimine Junon.
Vous avez mis Junon, parce que Junon, elle a un petit peu la corte, Junon. Hein. Ouais. Un petit peu rondelette. Hein. Ah, elle fait des petits plats sympas, je ne sais pas.
Alors Artémis, c'est la Artémis,
c'est la chasse, elle a toujours un sabre.
Alors la quels sont ses attributs qui permettent de dire que c'est Vénus en fait?
Sa beauté,
la beauté.
Parce qu'elle sa beauté. Sa beauté parce qu'elle est dévêtue.
Et puis la douceur, l'inclination. L'inclinaison de sa tête.
L'inclinaison de sa tête. Ok.
C'est plus doux.
Plus doux. Donc on a là, en clair, une représentation de Vénus dans une statue romaine. C'est Vénus parce qu'elle est nue. Et que la nudité est l'apanage particulier de Vénus, et là c'est une nudité particulièrement gracieuse, ok. Une date peut-être. Bon, grosso modo, je ne montre pas une date à un nom près. Hein. Premier siècle avant Jésus-Christ. Donc on est tout à fait au début de la grande période romaine, pourrait-on dire.
Mais ça peut être une copie.
Ah, donc ce serait une copie.
Je sais pas.
Ça ressemble à une copie.
C'est une copie.
Ça peut être la copie d'une Aphrodite.
Donc je résume. Hein. Nous avons là une statue romaine qui date du début de l'Empire romain, on va dire, hein, puisque vous disiez plutôt fin du 1er siècle, hein, époque d'Auguste. Comme la Rapacis. Ça vous va, ça? Hein? On est OK. Hein? Donc, on est devant une statue romaine qui date du début de l'Empire romain, qui représente Vénus, parce que c'est une femme nue, particulièrement gracieuse. On a donc une représentation de cette déesse de la beauté. Est-ce que ça va à tout le monde, ça?
Oui.
Tout le monde est d'accord?
Et vous?
À votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça me va?
Non.
Pas du tout, du tout.
Non, ça se trouve.
Ça ne me va pas du tout.
C'est grec.
Non, ça se trouve, c'est une sculpture qui a été faite au 19e d'un modèle ancien.
Ah, une sculpture faite au 19e d'après un modèle ancien.
Oui.
Hellénistique. Alors, moi, vous m'expliquez. Alors, hellénistique, donc, soit une statue moderne, enfin, d'après un modèle ancien, soit une sculpture hellénistique, ça veut dire quoi, hellénistique?
Grec. Après l'époque classique.
Toutes les périodes, depuis 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant, c'est hellénistique.
Après l'époque classique.
Après l'époque classique. Si vous vouliez, très, très simplement, hein, essayer de définir schématiquement hein, l'antiquité grecque en période, comment est-ce que vous l'organiseriez? La première
archaïque,
ouais, d'abord. On pourrait commencer par l'archaïsme. On va pas aller du côté des périodes antérieures à l'archaïsme, la proto-histoire, c'est un peu compliqué. Donc, on va commencer par l'archaïsme. Archaïsme, grosso modo, quelle période?
6e
siècle. 6e siècle. Hein. Donc, archaïsme, 6e siècle. Ensuite,
classique.
5e. Et après,
hellénistique.
4e. 3e. 2e, même. Hein. Oui. Très bien. Donc, on va dire que la grande période de l'archaïque, non pas qu'il ne soit rien passé avant, mais ce n'est pas le projet de ces cours, hein. C'est effectivement cette période qui va du 6e au 2e siècle, 6e siècle, époque archaïque, 5e siècle, époque classique, 4e au 2e siècle, époque hellénistique. Là, finalement, vous changez un peu votre fusil d'épaule, c'est plus romain, ce serait soit une copie réalisée bien plus tard d'après un original antique, soit c'est une sculpture hellénistique, mais alors, donc plutôt entre les 4e et 2e siècle avant Jésus-Christ. Ça vous va, ça? Pourquoi?
Je ne sais pas.
Ouais.
La qualité des plis,
le drapé,
par contre, c'est pas du marbre.
Pas du marbre.
Le déhanchement,
c'est pas de la pierre.
De la rotation.
On n'a pas l'impression que c'est du marbre.
Ben, je ne pensais pas en vous passant cette sculpture que vous auriez tant de choses à dire. Ouais. Donc pas du marbre à votre avis?
Bah, je sais pas, ça fait penser à de la pierre.
Ah ben bah, le marbre c'est de la pierre. Hein.
Oui non mais enfin c'est pas de marbre.
Elle est sur un socle.
Ah bah non, elle est très granuleuse.
Alors est-ce que je vous dis un peu de quoi il s'agit?
Bah, ouais,
oui. D'abord, cette sculpture, c'est bel et bien cette œuvre, et trois d'entre vous avaient raison, que l'on appelle la Vénus de Milo. Tiens, vous avez là, tout simplement, une des sculptures les plus célèbres de l'Antiquité universelle. C'est la Vénus de Milo, un des chefs-d'œuvre des collections internationales, un des chefs-d'œuvre des collections du monde. Ce que vous avez là, c'est la Vénus. Demain, prenez tous le TGV pour aller au Louvre la voir. Hein. C'est la Vénus de Milo. On doit reconnaître la Vénus de Milo. Enfin, c'est la Vénus de Milo. Bon. Sauf que cette Vénus n'est pas une Vénus, mais qu'elle vient quand même de Milo. C'est déjà ça. Oui, c'est déjà un premier point. Là, c'est un point acquis. Elle vient de Milo. Hein. C'est où Milo?
En Grèce.
Mais où?
C'est une île.
Hein. C'est une île grecque, effectivement, la mer Égée. Bien. Cette sculpture, on l'appelle la Vénus de Milo. On ferait mieux de dire l'Aphrodite de Milo, parce que c'est une sculpture qui vient de Grèce et qui est antérieure à la période où la Grèce était sous domination romaine. Donc c'est en fait une Aphrodite, en tout cas vraisemblablement, parce qu'à vrai dire, rien ne dit que c'est Aphrodite. Hein. Alors vous m'avez dit, oh, bah oui, elle est belle, elle est nue. Oui, des déesses belles et nues, moi je peux vous en montrer qui ne sont pas des Aphrodites. Hein. Il y a des déesses pas trop mal, vous savez, dans le panthéon gréco-romain, hein, et qui ne sont pas forcément des Vénus. Hein. Donc Vénus, c'est vrai, ce n'est pas la plus moche, mais enfin, il y a des Vénus, il y a des déesses autres que Vénus ou Aphrodite, qui peuvent être assez convenables aussi. Hein. À vrai dire, on se demande même aujourd'hui si cette Aphrodite ne serait pas Amphitrite. Et qui est Amphitrite?
Déesse
de la mer. Hein, c'est l'épouse de...
Poséidon,
hein, donc qui est le dieu des vœux. Bien. Tout simplement parce que Mélos, l'île de Milo, était une île où justement la déesse Aphrodite était tout spécialement honorée, si vous voulez. Donc on se demande aujourd'hui si cette Vénus de Milo n'est pas en fait une Aphrodite de Mélos. Hein,
voilà.
Une amphitrite, pardon, de Mélos. Bien. Ça n'est pas sûr, mais c'est possible. En tout cas, aujourd'hui, on hésite beaucoup entre Aphrodite et Amphitrite. On penche plutôt du côté d'Aphrodite, c'est vrai, mais la chose n'est pas certaine. En ce qui concerne sa pose, qu'est-ce qu'elle fait, à votre avis?
Elle est
déhanchée.
Elle est jaune, la pomme de la beauté, non?
La pomme de la beauté. C'est une sorte d'Ève moderne,
non,
alors.
Hélène, oui. Elle reçoit, pardon, la...
Mais non, c'est...
Le don,
c'est Paris, bon, qui va choisir.
Oui, c'est Paris qui choisit.
Alors oui, racontez-nous un peu cette histoire.
Bah, c'est le départ de la guerre de Troie.
Hein. Eh oui.
Et elle a eu lieu.
Qu'est-ce qui s'est passé, alors?
Paris a dû choisir entre trois déesses.
C'est l'épisode qu'on appelle le jugement de Paris. Bah, hein. C'est... Paris doit choisir en effet entre trois déesses qui sont qui?
Hera,
oui. Hera, Junon pour le nom romain, oui.
Et Athéna.
Athéna, c'est-à-dire Minerve. Et Aphrodite et Vénus. Et Paris va choisir qui? Il va choisir Aphrodite. Donc, il va donner à Aphrodite la pomme, qui est en quelque sorte le prix symbolique, hein, qui récompense Aphrodite pour sa beauté, lui donne la première place. Hein. Donc souvent, effectivement, Aphrodite ou Vénus est présentée comme une pomme, évocation du jugement de Paris, cet événement dans lequel Paris a choisi Aphrodite comme la plus belle des déesses. Il aurait mieux fait de faire autre chose, parce qu'effectivement, Junon furieuse a ensuite, et d'ailleurs Athéna n'était pas dans une meilleure forme, ensuite, grosso modo, déclenché la guerre de Troie, mais ça, c'est une autre histoire. Bien. Donc, vous pensez qu'avec ses bras aujourd'hui disparus, peut-être elle tenait une pomme? C'est la seule solution?
Pour faire sa toilette.
Si c'est Amphitrite.
Si c'est Aphrodite.
Elle fait sa toilette?
Pardon?
Elle fait sa toilette?
Oui, par exemple, qu'est-ce qu'elle pourrait tenir?
De l'eau ou
un miroir?
Un miroir, pourquoi pas. Hein. Vénus, elle est un peu comme Marguerite dans Faust, elle aime bien se voir dans ce miroir. Hein. À vrai dire, aujourd'hui, on n'a pas tellement d'idées sur la position des bras qu'avait cette sculpture. S'il s'agissait de Vénus, à vrai dire, on a fait trois propositions que je vais vous montrer d'ailleurs, hein, que voilà. Hein. Mais il y en a d'autres. Il y a même eu des propositions absolument baroques, hein, des Vénus de Milo entre guillemets avec une guitare, par exemple. Bon, peut-être pas forcément, c'est un peu anachronique. Mais voilà, donc vous voyez effectivement là trois possibilités, dont deux avec une pomme, effectivement. Donc vous voyez dans les deux cas, on imagine qu'il y avait à côté d'elle ce qu'on appelle un pilier hermaïque. Et puis une autre possibilité même où elle était avec un autre personnage qui est qui d'ailleurs ?
Mars.
Et pourquoi Mars? Voilà. Mars, de le nom grec est quoi d'ailleurs?
Arès.
Hein. Arès ou Mars, tout simplement parce qu'effectivement, il était son amant. Bien. Donc, vous voyez qu'on travaille en fait beaucoup encore, hein, sur la possibilité des gestes de cette vraisemblable Aphrodite de Mélos ou de Milo. Mais pour l'instant, la chose n'est pas du tout tranchée. Ça reste donc vraiment en suspens. C'était intéressant, par ailleurs, ce que vous disiez par rapport à la date de cette sculpture, parce que je vous montre ici une autre sculpture. La sculpture que vous voyez là, elle est conservée à Naples, au musée archéologique de Naples. Et quand vous la regardez, vous pensez tout de suite à la Vénus de Milo. Hein. Vous lui enlevez les deux bras, vous lui faites relever la tête, c'est la Vénus de Milo. Hein. Sauf que y a quand même quelques éléments différents. Et la sculpture que vous voyez là est très certainement une copie réalisée à l'époque romaine d'après une statue originale qui, elle, daterait sans doute du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc la Vénus de Milo, notre Vénus de Milo, celle que maintenant vous savez reconnaître, hein, vous ne ferez plus le bruit pour reconnaître la Vénus de Milo. Hein. La Vénus de Milo que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, on pense aujourd'hui qu'elle est de la même manière, d'ailleurs c'était un petit peu ce vers quoi vous alliez tout à l'heure, c'était intéressant ça, hein. On pense que la Vénus de Milo est vraisemblablement, appelons-la comme ça, hein, une interprétation faite à l'époque hellénistique, à la fin de l'époque hellénistique, sans doute à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ, d'après une sculpture datant du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc les citations que vous aviez au niveau de la date, elles étaient assez justes en fait. Et cette sculpture que vous voyez là, et quand on met les deux sculptures côte à côte, hein, on voit qu'on a grosso modo des choses assez équivalentes. Vous avez la Vénus de Milo ici et là, la Vénus dite de Capoue. Vous voyez qu'on a quelque chose de très strange. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est assez semblable. Et donc on pense essentiellement que la Vénus de Milo, je l'appelle comme ça parce que ça va plus vite, est sans doute un original grec fait à l'époque hellénistique au 2e siècle avant Jésus-Christ, mais qui reprend, si vous voulez, stylistiquement parlant, un modèle antérieur du 4e siècle avant Jésus-Christ, dont la Vénus de Capoue serait également la copie. Vous me suivez ?
Oui.
Un peu compliqué, vous le voyez, la sculpture grecque. Hein. Finalement, la sculpture grecque, on la connaît parfois uniquement par des intermédiaires. Ok ? Alors, ce que je vous propose, et je vous remontre une dernière image à Vénus de Milo que maintenant vous avez tous, n'est-ce pas, et toutes bien en tête, hein, encore une fois, fin du 2e siècle avant Jésus-Christ, c'est sans doute une Aphrodite, et elle date de là, oui, de la fin du 2e, autour de 120 avant notre ère. Alors, ce que je vous propose pour la séance d'aujourd'hui, c'est qu'on travaille autour de deux choses. On va travailler autour de la question de la sculpture, précisément de la statuaire grecque. Alors, deux, trois petites autres divagations, mais surtout autour de la statuaire grecque. Et je voudrais d'abord qu'on travaille la question de l'iconographie. Qu'est-ce que représentent les statues grecques, d'une part, et d'autre part, que l'on travaille autour de la chronologie. Essayez de voir, à travers l'époque archaïque, classique, hellénistique, comment, je dirais, s'organise la chronologie de la statuaire. On va donc essayer de travailler autour de ces deux points-là. Un, l'iconographie. Deux, la chronologie. Prêt ? Là. Dans un premier temps, je voudrais donc qu'on travaille autour de la question de l'iconographie. Et je vais vous montrer un certain nombre d'œuvres. Et ces œuvres-là, je vous les montre. Il y en a une vingtaine. Je vous les montre déjà rapidement. Je vous les montre d'ailleurs en ordre chronologique. Hein. C'est-à-dire ce que vous voyez là, on va le regarder à la fois pour voir de quoi il s'agit sur le plan de l'iconographie, qu'est-ce que représentent ces œuvres. Mais au-delà de ça, commencez également à regarder, puisque je vous les montre dans un ordre chronologique, on va des plus anciennes vers les plus récentes. Cette chronologie-là que vous allez digérer, puisqu'on va revoir toutes ces œuvres-là, elle nous sera peut-être utile pour travailler dans la deuxième partie de cette séance. Ok ? Bien. Je vous ai montré déjà une première fois toutes ces œuvres. Maintenant, on va les regarder une deuxième fois en travaillant, encore une fois, spécifiquement sur l'iconographie. Qu'est-ce que représentent les sculptures que nous voyons et que je vous ai disposées dans l'ordre depuis les plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Alors, cette première statue-là, qu'est-ce qu'elle représente ? Ah oui, mais ça ne me dit rien du tout.
Une jeune fille.
Une jeune fille, voilà. Donc, ça représente une jeune fille. Alors, au milieu d'une corée, pour moi, une corée, c'est pas de la chicorée, quoi.
Mais non, Corée, Corée.
Oui, mais ça, moi, je ne sais pas. Moi, il faut tout me dire. Ça, il faut... ça, moi, vous me dites une Corée, mais ça me dit rien, une Corée.
C'est archaïque.
Oui, mais Corée, ça veut dire quoi ? C'est ça ?
Jeune fille.
Ah, ben voilà. Donc, Corée veut dire en grec jeune fille. Hein. Il faut être très, très clair. Vous savez, la pédagogie, c'est la clarté. Hein. Donc, Corée, ça veut dire jeune fille, effectivement. Hein. Donc, cette statue représente une jeune fille. Et jeune fille, ça se dit Corée. Cette jeune fille, cette Corée, au-delà du fait que c'est une jeune fille, mais quelle jeune fille ? Qu'est-ce que c'est que cette jeune fille-là ? C'est qui ? C'est quoi ? Elle fait quoi ?
Ça pouvait pas être une vestale.
Une vestale, c'est-à-dire... Parce que vestale, c'est plutôt chez les Romains, hein, parce que vestale était, vous savez, dans le temple de Vesta sur le forum à Rome. Donc, si on les transposait en Grèce, vous diriez que c'est, grosso modo, quel genre de personne ?
C'est lié à la procession des Panathénées qui gardent... sacré, enfin pas sacré, mais
donc une personne qui a un rôle lié au sacré, lié au religieux, hein, un peu comme les Vestales à Rome, quoi. Hein. Ok, d'accord.
Elle a le bras comme ça qui manque. Elle avait le bras tendu, elle portait quelque chose.
Elle avait effectivement le bras tendu, le bras est cassé, donc elle portait certainement quelque chose. Hein. Le bras était effectivement tendu en avant, il est cassé, voilà. Donc on aurait là la statue d'une femme qui sans doute fait partie à un rôle religieux. Autrement dit, vous pensez que ce n'est pas du tout une statue mythologique. Ce n'est pas une déesse, par exemple.
Non, elle n'est pas.
Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites que ce n'est pas une déesse ?
Elle n'est pas individualisée.
Elle n'est pas individualisée. C'est-à-dire qu'on est là devant une figure qui n'est pas réaliste, je dirais. C'est ça ?
Pas très réaliste.
Pas très réaliste. Mais vous pensez que ce n'est pas une déesse ? Ok.
C'est pas une prêtresse, peut-être.
Donc voilà, un peu comme vous disiez finalement, hein. En tout cas quelqu'un qui fait partie du personnel religieux, pourrait-on dire. Hein. D'accord, donc pour vous c'est plus une représentation d'une prêtresse ou de quelqu'un qui appartient au domaine du religieux qu'une représentation d'une divinité. D'accord ? Vous la verriez donc, je vous ai dit que je présentais d'abord les plus anciennes et qu'on avait la plus récente, une petite idée d'une période.
Sixième.
Oui, sixième, c'est-à-dire quelle période ?
Archaïque.
Hein. Okay. Bien. Voilà.
De sourire, la position frontale.
Donc on est bel et bien ici dans une sculpture hein, qui représente, vous le disiez, une jeune femme, une Corée, on est au 6e siècle, à l'époque archaïque, très bien. C'est du marbre. Hein. La Vénus de Milo, j'ai oublié de le dire, c'est bien du marbre. Hein. Voilà. Et effectivement, cette jeune fille que vous voyez là est une sorte de, entre guillemets, prêtresse. Le mot vestal que vous utilisiez était assez juste parce que les vestales n'étaient pas tout à fait des prêtresses, mais un peu quand même. C'est-à-dire des femmes vouées à Vesta, en l'occurrence. Là, on n'est pas du tout chez des Vestales, puisqu'on n'est pas dans l'Empire romain. C'est évidemment une jeune femme qui est liée au culte d'Athéna, qui est la déesse tutélaire d'Athènes. Hein. Et donc, effectivement, c'est une jeune femme qui est liée au clergé d'Athéna. Hein. Donc cette Corée, cette jeune femme, fait partie des femmes liées au culte de la déesse tutélaire de la cité. Peut-être d'ailleurs, dans les fois suivantes, l'occasion de reparler de certaines choses autour de ça. Très bien. Et là,
son équivalent masculin.
C'est-à-dire, c'est une Corée à Kouros.
Kouros, jeune homme.
Donc Kouros, c'est le nom, le mot grec pour dire... jeune homme. Hein. Corée, c'est une jeune femme. Et Kouros, c'est un jeune homme. Donc on a là également aussi un jeune homme qui fait partie du clergé d'Athéna.
Non.
Ah, non.
Non.
Bon. Alors c'est quoi ?
C'est un athlète.
Un athlète ?
qui tient quelque chose dans sa main.
Mais on ne voit pas bien.
C'est frigide ou quelque chose comme ça, non?
Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, il tient. Alors, il se passe quelque chose, qu'il est debout assez frontalement, etc. Qu'est-ce qu'il tient dans ses mains, même, pourrait-on dire?
Il est peut-être servant d'un autre dieu que celui d'Athéna.
D'un sacré... Pourquoi un sacrifice?
Une offrande. Il tient la main ouverte.
Ah, alors, parce que sa main droite est ouverte, donc on aurait là un geste d'offrande, très bien. Et la main gauche?
On voit pas bien. Peut-être quelque chose qu'il a remporté.
Il tient quelque chose, ça ressemble à quoi?
On voit pas.
Et pourquoi est-ce qu'on voit pas? Parce que c'est cassé. Ces statues-là sont pas. Autrement dit, c'était peut-être plus complet. Si c'était plus complet, qu'est-ce que ça pouvait être? Une quoi?
Un flambeau.
Ah oui. Un flambeau. Non, oui, vous disiez, pardon. Un flambeau.
Un couteau.
Ouais.
Une couronne, quelque chose qu'il supporte.
Ça peut être le début d'un couteau, d'une arme.
Une harpe, vous disiez?
Une arme, j'avais compris.
Une arme. Donc dans sa main droite, un geste d'offrande, et dans sa main gauche, il tient une arme.
Un instrument de musique,
ou un végétal. Il tient quelques fleurs.
Une flûte.
Il tient une flûte. S'il fait du sport, ce sera autre chose alors?
Il est tout nu.
Il n'y a que les sportifs qui sont tout nus.
Ils étaient nus en Grèce.
Les sportifs sont nus. C'est pour ça que ça pourrait être un sportif, étant un athlète.
Mais ça peut être un dieu aussi.
Ça peut être un dieu.
Rien.
Ça, alors, et pourquoi pas, et pourquoi Apollon? C'est une bonne idée, Apollon.
Pourquoi pas Apollon?
Parce qu'il est très beau.
Parce qu'il est beau.
Alors, il est beau, beau comme Apollon, ouais. Apollon, c'est comme Vénus, hein, c'est un peu l'équivalent.
Et qu'est-ce qu'il a dans la chevelure?
Peut-être quelque chose
d'assez
plus. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas un diadème? Qu'est-ce qu'il a là-haut?
Non, il a simplement des bouclettes qui font sur le front une sorte de petit motif et des sortes de... Comment ça s'appelle? Des redlocks à l'arrière? Voilà.
Des dreadlocks.
Oui, c'est vrai. C'est des redlocks.
Mais alors, c'est, donc, effectivement, dans la main droite, il a ce geste d'offrande. Il peut y avoir donc quelque chose dans sa main droite qui aurait disparu aujourd'hui. Mm-hmm. Ça pourrait, si c'est une offrande, ça peut être une coupe. Par exemple, hein. C'est que souvent pour faire des libations, on mettait par exemple un liquide, une huile sacrée, etc., dans une coupe et on versait ça sur un autel, par exemple. Ah, pourquoi pas? Peut-être qu'il tenait une coupe dans sa main. Hein. Si on faisait une coupe, ça ferait bien ce geste-là. Hein. C'est-à-dire qu'il y aurait le pied qui serait là entre le pouce et les restes des doigts, et la coupe de la coupe qui reposerait sur la paume. Alors la coupe serait disparue parce que c'est quand même une sculpture qui est très ancienne. Hein. Voilà.
Et c'est en
bois. Et dans la main gauche, donc qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Par exemple, si Apollon, ça pourrait être quoi?
Son luth.
Son luth. Ou bien. Pardon?
Moi,
je crois que j'ai entendu.
Un arc.
Hein. Apollon, l'objet que tient Apollon, qui très souvent l'accompagne, c'est l'arc. Hein. C'est d'ailleurs ce que l'on pense. On pense que cette figure est en fait un Apollon et qu'il tenait à l'origine un arc. On l'appelle l'Apollon du Pirée parce qu'il a été trouvé dans le port du Pirée. Il est d'ailleurs toujours au musée archéologique du Pirée. Et on suppose que c'est toujours Apollon. Vous voyez, ces sculptures de l'époque archaïque, hein, on est aussi ici au VIe siècle, qui représentent des hommes et des femmes, peuvent être aussi bien des divinités que des personnages de la vie quotidienne. Avant, vous avez plutôt vu une jeune femme, vous aviez d'ailleurs raison, mais c'est plus le contexte de découverte qui l'a permis de le dire que la sculpture elle-même. La sculpture d'avant, ça aurait pu tout aussi bien être une déesse. Vu le contexte où on l'a trouvée, sur l'acropole d'Athènes, etc., liée au culte d'Athéna, on sait que c'est une représentation d'une jeune femme qui était liée au culte d'Athéna. Mais ces sculptures peuvent aussi bien être des mortels que des divinités. Là, on pense qu'il tenait un arc et que c'est assez vraisemblablement la représentation d'Apollon. Et là.
C'est plus tard, ça. C'est plus tard parce qu'il y a plus dessiné. Mais il y a toujours la position frontale, mais il y a un firme.
Ça va être un
alors,
athlète.
Côté iconographie, parce qu'effectivement, on fait bien de regarder un peu la manière dont ça s'organise, puisque ça va nous être utile dans le deuxième temps de l'atelier, hein, puisque je vous montre toutes ces sculptures dans l'ordre chronologique, hein, c'est la plus récente que la précédente. Okay. Mais qu'est-ce que ça représente, c'est qui ça? C'est quoi?
Un athlète.
Un homme. Jeune homme, ça s'appelle comment?
Un
couros.
Mais très symétrique.
Comment
dans
est-ce ses... qu'on... un couros, deux couros?
Courail.
Deux courail. Une corée, deux
corail.
Corail. Donc là, on a un couros.
En fait, on dit courrier. Et
alors, c'est qui ça?
Il doit avoir un geste, il est très symétrique.
Très symétrique.
Un athlète qui court.
Ça pourrait être un orige.
Ce serait un athlète, bon, un orige.
Qui tiendrait des rênes.
On voit des rênes.
Il a des choses.
Il y a quelque chose sur le côté.
Ah, c'est un soutien de sculpture, ça, en fait.
Oui. Ce que vous voyez là, ici et là, c'est ça.
Oui. C'est un soutien.
Un soutien de quoi, ça?
De sculpture. Enfin,
c'est ça. C'est un soutien des mains, hein, parce que quand vous faites des mains, quand vous faites une sculpture, détacher les mains, c'est compliqué. Hein. Donc généralement, il y a des petits tenons qui permettent à la main qui est sculptée qu'elle reste sculptée. Bon, ben là, ça n'a pas marché. Les mains sont cassées quand même. Hein. Mais souvent, on garde des tenons pour que les sculptures ne se cassent pas, pour que les membres, en l'occurrence, restent conservés. Hein. Alors, donc, cette sculpture représente un couros, un jeune homme. Divinité, pas divinité, si c'est une divinité, c'est qui? Si c'est pas une divinité, c'est qui?
C'est un jeune homme, c'est pas une divinité.
Un jeune homme, pas une divinité.
Un athlète. Un coureur.
Et donc c'est un athlète qui aurait été récompensé, c'est-à-dire que pour célébrer sa performance, on lui a fait une statue, c'est ça?
Quelque chose comme ça.
C'est possible. Ouais, c'est possible. Hein.
Il a un air légèrement souriant.
Mmh. On dirait qu'il fait un concours de.
Ouais.
La tête,
il se plaît. À l'époque archaïque, on sourit beaucoup. Ouais. Donc on aurait là la statue d'un jeune homme, plutôt un mortel qu'un dieu, hein, et qui serait là peut-être parce qu'on lui a dressé une statue suite à un exploit sportif.
Hein.
Ben, c'est presque ça. C'est effectivement la statue d'un jeune homme, c'est un couros. On connaît même son nom, il s'appelle Aristodikos, tout simplement parce que sur la plinthe sur laquelle il repose, hein, qui existe encore, il y a son nom. Donc on sait quel est son nom, il s'appelle Aristodikos. Et cet Aristodikos, c'est effectivement un athlète, hein, sauf que cette statue est une statue funéraire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été élevée pour célébrer l'exploit de l'Aristodikos en question. C'est une statue qui a été faite pour marquer sa tombe. Hein. Alors c'était quand même aussi une manière de montrer sa condition d'athlète. Hein. Elle marque sa tombe, mais c'est aussi un athlète. Donc quelque part, ça célèbre sa nature d'athlète, sans doute plein de talent, si vous voulez. Hein. Voilà. Mais en l'occurrence, c'est une sculpture qui a été faite pour marquer sa tombe. Hein.
Alors, il était censé porter quoi
ou... Peut-être rien. Voilà, dans ses mains, c'est peut-être un athlète de la course ou bien la lutte, on ne sait pas.
C'est grand comme.
C'est grandeur nature, hein. C'est grandeur nature, ouais. Avec le socle, ça fait 2 mètres de haut, à peu près. Très bien.
Ça, c'est l'orige de
l'œuf. L'orige de l'œuf. Bon, alors, je lève, c'est quoi un orige?
Conducteur de char.
Hein. C'est évidemment celui qui tient les rênes au sens littéral du terme. Et vous voyez que dans sa main, il tient des rênes, effectivement. Alors, cette statue qui vient de Delphes, c'est pour ça qu'on l'appelle l'orige de Delphes. Pourquoi est-ce qu'elle se trouvait à Delphes, hein, c'est pas, quelle est la raison
Jeux delphiques.
Des jeux delphiques, mais ça ne m'explique pas pourquoi la statue est là, ce qu'elle représente.
Parce qu'il a gagné les jeux.
Il a gagné les jeux. Donc c'est un orige qui a gagné les jeux. Donc quelqu'un qui a gagné des jeux en conduisant un char.
Oui, en l'honneur d'Apollon.
En l'honneur d'Apollon, hein, puisque effectivement, son sculpture de Delphes est un sculpture d'Apollon. Ben, c'est ça, en tout cas presque ça. C'est pas lui qui a gagné le jeu, hein. C'est le maître pour lequel il a travaillé, si je veux dire. Parce que cette aurige, c'est pas lui en fait, hein, le vainqueur. C'est celui qui était représenté avec lui. Parce que cette statue, elle n'était pas toute seule à l'origine. Hein. Cette statue, c'était tout un groupe, hein, où il y avait 4 chevaux, un char, l'aurige et Polyzalos, c'est-à-dire le patron de l'aurige que vous voyez là, qui accompagnait son aurige, vous voyez ce que je veux dire, plutôt que l'aurige accompagnait. Donc aujourd'hui, la statue que vous voyez là, ça n'est qu'un élément d'un groupe beaucoup plus important, où il y avait encore une fois 4 chevaux, le char et le vainqueur lui-même, hein, autrement dit le maître de Polyzalos. Donc vous n'avez qu'un élément d'un groupe beaucoup plus complet.
Ce groupe avait les personnages étaient séparés les uns des autres.
Les personnages étaient séparés.
Parce que la coulée en bronze.
Ah oui, bah c'était un sacré travail. Hein. Donc chaque, il y avait autant de statues qu'il y avait de personnages ou d'animaux. D'ailleurs, si vous allez à Delphes, vous verrez l'aurige, mais vous verrez encore des morceaux des chevaux, hein, qui existent encore, et des morceaux du char également. Hein. Il y a encore des éléments de tout ça. Hein.
Le char, il n'est pas mal.
Oui, il y a une bonne partie du char.
Ah ben alors là, c'est un dieu.
Donc ça, c'est un dieu. C'est clair.
Celui des enfers.
Mais il tient une pierre dans la main droite, dans sa main droite. Il tient quelque chose ? Une pierre, non ?
Une pierre ?
Je sais pas.
On voit pas.
Non, c'est pas très visible. Je pense pas que ce soit une pierre. Je pense savoir ce que c'est, mais pas une pierre.
Un ange de quelque chose.
Hein, pardon.
Un ange de quelque chose.
Non, je pensais à un objet en soi. Ah ouais.
Mm-hmm. Non, c'est un objet en soi. Le mari d'Amphitrite, c'est qui déjà? Poséidon.
Poséidon.
Non, c'est pas lui. Poséidon, c'est l'autre.
Oui, c'est magnifique.
Bon, alors, recommençons par le début. Un mortel ou un dieu ? Et pourquoi un dieu plutôt qu'un mortel ? Moi, je veux bien, hein, mais la raison, c'est quoi ?
Une statue.
Notre Aristodicos tout à l'heure, hein, je veux dire, ça, il assurait, hein ? Non ?
Très imposant.
Non, c'est là.
Donc c'est un dieu, alors. C'est un dieu. Et alors, c'est quel dieu ? Puisque c'est un dieu.
Zeus qui tient les.
Donc un dieu, mais impossible à le dire vraiment parce que.
Il tient la foudre
dans sa main. Alors. Ouais. Oui, pour Zeus, on dit le foudre et pas la foudre. Effectivement.
Oui, le foudre. Les filles des
foudres. Voilà. Donc ce serait peut-être Zeus peut-être Zeus, donc avec le foudre. C'est votre dernier prix ? Ah ben en fait, c'est un guerrier, c'est un mortel, pas du tout un dieu. Hein. Ce qui permet de le voir, c'est notamment le fait qu'il a là, sur son bras, les restes de ce qui était un bouclier. Hein. On dirait que ça pourrait être Arès dans ces cas-là. Hein. Mais il a dans l'autre main un élément qui semble bien être un strigile. C'est ce que c'est un strigile,
oui.
Pour se gratter la peau. Hein. Voilà.
Mais nous, on ne voit pas.
Et voilà, donc il s'agit en fait très certainement, alors on n'en est pas non plus sûr à 100%, mais très certainement d'un mortel, donc d'un guerrier. D'ailleurs, cette sculpture n'a pas été trouvée seule. Ces sculptures en fait que je vous montre ont été trouvées il y a maintenant une 25aine d'années au large de l'Italie, à Riace. Et c'est deux pièces très très importantes parce que, on l'a dit la dernière fois déjà, hein, très souvent la sculpture grecque qu'on étudie aujourd'hui, on l'étudie à travers de copies romaines réalisées en marbre à l'époque romaine, mais d'après des originaux grecs réalisés plusieurs siècles auparavant, le plus souvent en bronze. Hein. Autrement dit, on étudie la sculpture grecque à partir d'intermédiaires qui ne sont pas dans la même matière. et qui sont plus tardifs. C'est un peu compliqué quand même, hein. Autrement dit, quand on trouve des vraies sculptures grecques vraiment en bronze, bah, c'est intéressant parce que c'est des originaux. Vous voyez ce que je veux dire, hein. D'accord. Donc là, vous avez sans doute des originaux datant du 5e siècle, du milieu du 5e siècle de notre, enfin, avant notre ère, hein, et qui représentent sans doute deux guerriers. On les a trouvés dans une épave, dans la mer. Alors cette épave... On hésite un peu. On pense qu'elle contenait toute une série de sculptures qui étaient emmenées à la refonte. Parce qu'évidemment, le bronze, c'est cher. Hein. Donc, quand une sculpture ne plaît plus, on la refond, puis on en fait une autre. Hein. Bon. Ou alors, peut-être, c'était un bateau qui emmenait des sculptures avaient été achetées ou allaient être vendues, si vous voulez, puisque les sculptures grecques faisaient l'objet de tout un commerce. Hein. On les vendait beaucoup, hein. Et on les achetait beaucoup en Italie. Donc, voilà, ça allait et venait. Et puis, il y a un certain nombre de sculptures qui, quelquefois, finissaient leur vie au fond de la mer. C'est le cas des bronzes de Riace que vous voyez là.
Okay. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît, ce repli abdominal,
oui,
qui
voilà.
Sont les deux,
ça,
un peu
anatomique, c'est bizarre.
Ben, quand vous faites de du bodybuilding, il se passe ça à la fin.
Ah bon,
voilà. Voilà, c'est une manière, si vous voulez, de c'est lié à la. Voilà, de la musculation.
C'est des muscles qui. Sont...
Absolument.
Ils étaient très musclés, les abdominaux.
Alors, est-ce Zeus ou Poséidon ?
Voilà.
That is the question.
Hein.
Vous avez une préférence pour Zeus ou Poséidon ?
Poséidon.
Moi, j'aime bien Poséidon.
Poséidon.
C'est effectivement assez vraisemblablement Poséidon. C'est pas absolument sûr. Parce qu'en effet, ça peut être Poséidon, mais avec quoi ?
Son trident.
La plus, hein, mais avec son
trident.
Ou bien Zeus avec le foudre. Hein. Donc c'est l'un ou l'autre, c'est pas sûr, mais c'est possible. Donc, et là, on n'arrive toujours pas à savoir. Hein, c'est l'un ou l'autre, et rien n'est aujourd'hui assuré. Poséidon ou Zeus. Voilà. Ok.
Il est un peu plus que la taille normale. Hein,
là. Ah, il est monumental. Hein.
Ça, c'est martial.
Ces statues n'étaient pas toujours seules. Hein. Aujourd'hui, quelquefois, on les voit seules, pas toujours. Hein. Mais quelquefois, elles pouvaient être en groupe. Rappelez-vous ce qu'on a dit pour l'origine de Delphes. Il ne reste plus que l'origine, mais il y avait plein d'autres figures, hein, animaux ou personnages. Hein. Là, je vous montre un groupe qu'on a pu reconstituer qui représente quoi ?
Il y a
Silène, satyre Marcias. Un satyre à droite, donc.
Ah oui.
Ouais.
Ou Dieu Pan.
Non, il a
oui, c'est. Donc à droite, on a un satyre, pourquoi pas Marcias. Et à gauche.
Une dame.
Une idée de qui est cette dame ? Rien qui permette de voir qui c'est. Pardon ?
Elle a des chaussures.
Des sandales.
Des sandales.
On dirait qu'elle a une cape un peu sur les épaules.
Elle a quelque chose.
Oui, sur les épaules, elle a quelque chose.
C'est ça dont vous parlez ?
Oui.
C'est l'Égide ?
C'est l'Égide ?
Où ça ?
Athéna et Martial ?
C'est pas évident.
Ah ben non, parce qu'Athéna, elle a des armes.
Là, ce serait pas la femme.
Bah là, il ne reste plus grand-chose.
Martial, avec qui ?
Si je remplace la statue de gauche par une statue qui est la même, parce que ces statues grecques que l'on connaît par des copies ont souvent été copiées à des centaines d'exemplaires. Hein. Mm-hmm. Donc là, je vous montre un groupe qui est, si ma mémoire est bonne, dans les musées du Vatican, mais vous pouvez trouver au Louvre, à Londres, à je ne sais pas où, des éléments un peu équivalents, qui sont également des copies romaines réalisées d'après ces originaux grecs. Hein. Donc on peut peut-être trouver dans d'autres musées des statues équivalentes qui peuvent permettre de compléter un peu les choses. Vous voulez que je vous complète la sculpture de gauche ?
Oui.
Ça vous arrange ? Je pense que ça va vous arranger.
On a tout vu, c'est Athéna.
Athéna. Eh bien, c'est Athéna.
C'est Athéna.
Ah oui, mais c'est quoi, pourquoi Athéna avec ce satyre martien? Est-ce que c'est bien martien?
On en est sûr?
Oui.
Alors.
Mais parce qu'il y a une histoire, mais j'ai oublié.
Donc on a à gauche Athéna, à droite Martia. Là, l'Athéna, elle est complète. Hein.
Mais alors, on a retrouvé des morceaux? Qu'est-ce qui se passe là? Parce que la statue précédente était vraiment incomplète.
Oui.
Et là,
mais non, parce que c'est un autre groupe.
C'est un autre
présentation.
C'est-à-dire que, si vous voulez, ce que vous voyez là, ce sont décidément des copies réalisées à l'époque romaine, d'après un groupe grec figurant Athéna et Martias, réalisés dans l'Antiquité grecque, hein, dont on a fait des quantités de copies qui sont maintenant éparpillées dans le monde entier, je dirais. Hein. Donc, cette Athéna, là, je vous en ai montré deux, une très cassée, celle-là est beaucoup mieux conservée, je pourrais vous en montrer d'autres encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelle est cette histoire? Vous la connaissez, cette histoire?
Non.
Eh bien, un jour, n'est-ce pas, Athéna, vous savez, Athéna, c'est une déesse, elle est déesse de quoi?
De la sagesse.
Il y a plutôt quelqu'un d'autre pour la guerre.
Et
les travaux manuels
aussi.
Oui, absolument. Donc c'est une déesse maligne, Athéna. Hein. C'est pas la déesse d'Athènes pour rien. Hein. Donc un jour, Athéna, elle bricole, car en effet, c'est une femme qui sait faire des choses de ses mains, n'est-ce pas? Et elle va inventer ce qu'on appelle l'holos double, c'est-à-dire une flûte à deux tuyaux. Et puis elle va jouer là-dedans, elle va voir que ça fait de la musique, elle est assez contente, mais à un moment elle passe devant son bouclier qui était assez bien lustré, son bouclier dédié, et qui faisait en même temps miroir, si vous voulez. Puis en passant devant son bouclier en jouant l'holos, elle voit qu'en jouant l'holos, ça lui déforme complètement les joues, parce que pour jouer l'holos, il faut y aller, hein. Et elle a trouvé ça tellement épouvantable que ça lui déformait tellement le visage qu'elle est coquette, Athéna, mine de rien, hein. Elle joue un cas sur les épaules, un petit côté garçonne, mais en fait elle est assez coquette, hein. Et trouvant que ça déformait tellement les joues et qu'elle était absolument horrible, elle a jeté comme ça l'holos. Et le satyre Martias, qui est toujours dans les coups un peu spéciaux, si vous voulez, qui était là dans un buisson derrière, est venu, puis il est venu pour ramasser la flûte, et désormais ce sera l'attribut de Martias, cette flûte à deux tuyaux. Voilà, c'est l'épisode que vous voyez. Donc à la fois Athéna qui a jeté, n'est-ce pas, l'holos double, la flûte, et puis Martias qui essaie de la rattraper. Voilà l'histoire qui est ici représentée. Alors on connaît bien ce groupe. Souvent on les connaît, ces groupes, parce que ils ont parfois été décrits par des textes. Un certain nombre d'écrivains de l'Antiquité les ont parfois décrits assez en détail. Je pense à Pline, par exemple, qui a décrit pas mal de ses sculptures. Ce qui fait que, quelquefois, en étudiant les textes, mais en regardant également les éléments archéologiques, c'est-à-dire les copies faites à l'époque romaine, après ces origines grecques, on arrive à reconstituer vraiment complètement les groupes. Et voilà le groupe qui peut être reconstitué. Alors, on a remis sa lance à Minerve, on lui a remis le cimier de son casque, vous avez l'holos par terre. Voilà donc à quoi devait ressembler, si vous voulez, le groupe quand il était en bronze complet à l'époque grecque. Ok ? D'accord ? Et on connaît même le nom de l'artiste. Hein, il s'appelait Miron. C'est un sculpteur qui est donc bien célèbre.
Artémis.
Donc Artémis. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est Artémis ?
Le carquois,
l'arbre.
Donc c'est Artémis, la déesse
de la chasse.
De la chasse. Dernier carafe. Il y a peut-être un autre attribut intéressant.
C'est pas un bouclier.
Un bouclier derrière, oui. Oui, un bouclier. Elle a un bouclier, Artémis ? Pas forcément. Il y a autre chose encore.
C'est vrai.
Mais il n'y a pas un casque par terre.
Casque. Ça finit par faire beaucoup. Hein.
C'est encore Athéna.
Encore Athéna avec une petite jupette comme ça et les seins à l'air. Pas trop de gens d'Athéna, ça. Hein. Athéna, elle est plus vêtue, on vient de la voir. Hein. Oui, le casque, c'est plus sur la tête. Là, et puis c'est un casque un peu plus volumineux que ce truc-là. Hein. Alors si c'est pas Artémis, tu sais pas Athéna parce que c'est pas vraiment le genre, mais enfin elle a quand même un arc, elle a un carquois, ça peut être qui? Une chasseresse mortelle, comme Diane, vous et moi.
C'est là, mais une carquois.
Pardon?
Diane, c'est Artémis.
Oui, Diane, c'est Artémis.
Non, mais Diane, ça, c'est Andrés.
On est en Grèce, oui.
C'est
pas. Pardon.
Amazon.
Une Amazone. Ah, pourquoi une Amazone?
Non, elle a ses deux seins.
Oh, bah, ça peut être avant qu'on lui en ait coupé. Hein.
Ah. Ça peut être une Amazone.
Qu'est-ce qui dirait dire que c'est une Amazone?
Le casque.
Et le bouclier. Dans ce genre de bouclier, on appelle ça comment? Ce genre de bouclier, justement, comme ça, et puis avec une... C'est un demi-cercle, et là, il y a deux espèces de... Je ne sais pas comment appeler ça. Hein. On appelle ça justement un bouclier d'Amazon. Le nom technique, c'est Pelta. Une Pelta. On appelle ça un bouclier d'Amazon. Ce que vous avez là, c'est une Amazon. Les Amazones sont des guerrières femmes, hein, enfin des femmes guerrières. Et bien, c'est en fait une Amazon. Alors là encore, c'est de ça, effectivement, souvent les Amazones se faisaient couper un sein, parce que ça les gênait moins pour tirer à l'arc. Hein. Voilà. Bon, ben là, les deux. Voilà. Et alors, cette Amazone que vous voyez là, qui est encore une copie romaine, réalisée à l'époque romaine, d'après un original qui est dû sans doute à Phidias. Tiens, Phidias, ça vous dit quelque chose, ça? Phidias, ça vous dit quoi? Le sculpteur du Parthénon. Hein, le Parthénon, les sculptures Parthénon ont été réalisées largement par Phidias. En fait, c'est une histoire assez rigolote, cette histoire de cette Amazone blessée. Il se trouve que vers le milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, le clergé du temple d'Éphèse, c'est une ville d'Asie mineure, où il y avait un immense temple d'Artémis. Temple d'Artémis qui était une des sept merveilles du monde. Hein. Eh bien, le clergé du temple avait décidé de réaliser un concours parce que la légende du temple disait qu'un jour, une Amazone blessée s'était réfugiée dans le temple. Les Amazones, ils trouvaient du côté d'Artémis une divinité assez, comment dire, compréhensible. Hein. Artémis, vous savez, c'est une chasseresse. Hein. Une Amazone, c'est une guerrière. Mais enfin, entre femme chasseresse, femme guerrière, on a des choses à se dire, quoi. Hein. Donc, l'Amazone blessée était allée dans le temple d'Artémis pour se protéger, si vous voulez.
Et pourquoi est-elle blessée?
Je ne sais pas où elle est blessée, mais en tout cas, elle est blessée. Bon. Elle a été blessée parce que dans un combat avec des Grecs, les Grecs l'avaient blessée. Et donc, blessée, elle s'était réfugiée dans le temple. Et donc, le clergé du temple d'Éphèse a décidé d'organiser un concours entre plusieurs sculpteurs grecs. Et ils ont, trois sculpteurs, même plus que trois, mais enfin, au moins trois célèbres, ont réalisé chacun une Amazone. Et je vais vous les montrer, non pas qu'on les connaisse, hein, mais on connaît des copies faites à l'époque romaine d'après les trois sculptures en question. Voilà les trois sculptures en question. Une sculpture avait été réalisée par Polyclète, une par Phidias, une par Crésilas. Vous avez là, non pas les originaux, encore une fois, mais les copies réalisées à l'époque romaine, d'après les originaux, faites par ces artistes. Ok ? Vous auriez voté pour qui, vous ?
Celle du milieu.
Il y en a qui préfèrent celle de gauche ou celle de droite ? Non, celle du milieu. Ah ben, vous avez le même goût que le clergé d'Éphèse. Hein. Celle du milieu, c'est le Phidias, qui était le plus brave. Vous voyez qu'il y a une permanence à travers les siècles. Hein. C'est bel et bien Phidias qui a été élu. Voilà. Alors, c'est marrant ce que vous disiez par rapport à la blessure, parce que moi aussi, je me suis toujours demandé où elles étaient vraiment blessées, ces pauvres Amazones. Hein. Mais je pense que la blessure est un peu un prétexte. Quoi. Bon. Elle lève à chaque fois le bras, donc il doit y avoir un problème sur le côté, je suppose. Hein. Mais d'autant qu'il y avait peut-être, vous voyez, des éléments peints hein, qui venaient mieux faire comprendre ce qu'il en était. Mais effectivement, je me suis toujours posé la même question.
Celle de gauche, elle montre avec
son index.
On a l'impression qu'elle éponge peut-être quelque chose. Mais bon. Enfin, évidemment, elles sont gênées de ce côté-là. Hein. Je suis.
Périclès.
Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi? C'est qui Périclès?
Ah ben c'est l'homme politique d'Athènes, du 5e siècle.
Ok. Autrement dit, ce qu'on a là, c'est quoi ?
C'est un portrait.
Périclès donc ressemblait complètement à ça ?
Non.
Pas forcément. Et vous avez raison d'ailleurs, il ne ressemblait pas forcément à ça. On sait même qu'il ressemblait sans doute pas à ça, mais de manière très lointaine. Ça veut dire quoi ça finalement ? C'est sans doute un portrait idéalisé. D'ailleurs, il a été réalisé après sa mort. Donc c'est pas un portrait fait d'après lui. C'est un portrait réalisé après sa mort. Autrement dit, c'est pas un portrait réalisé sur le vif. C'est un portrait réalisé après la mort du modèle. Une sorte de portrait idéalisé. Mais quel était l'intérêt de faire comme ça un portrait idéalisé de Périclès ? Le but, c'est quoi ?
Se faire connaître la démocratie d'Athènes.
Oui. Immortalisé, oui.
Donner en exemple,
oui. Oui, effectivement, c'est de la communication. Périclès, après tout, en faisant réaliser un portrait de Périclès après sa mort, c'est une manière de mettre en avant cette figure, et à travers un type, même s'il n'est pas très juste physiquement parlant, même s'il n'est pas très ressemblant, c'est une manière de montrer l'image d'un personnage dont on voulait vanter les mérites politiques. Et à travers lui, effectivement, Athènes et la démocratie athénienne.
Ce qu'il a sur la tête, c'est un masque,
c'est un casque.
Son casque est relevé. Normalement, le casque, il vient devant le visage. Ouais, mais quand on le relève, ça donne ça. Mais normalement, les deux, ce que vous avez là, c'est effectivement les yeux.
Ouais.
Les yeux, voilà. Alors, on a pu dire, je crois d'ailleurs que dès l'Antiquité même, on s'est un peu moqué et du sculpteur et de Crésilas, donc le sculpteur qui a fait l'original, vous voyez ici la copie romaine, ça, et de Périclès en disant qu'il avait en fait un crâne en forme de pain de sucre, et que c'est pour ça qu'on lui avait mis un casque pour cacher le crâne. Mais je crois que c'est dès l'Antiquité, des détracteurs, vous voyez, ont pu écrire ce genre de choses. Ça existe de tout.
Ben oui.
Elle est
implorante. Alors, toujours côté iconographie, c'est quoi ça ?
Une fin.
Très bien. On en a un peu parlé la dernière fois de l'Eda. C'est qui l'Eda Elsine ? C'est quoi ? C'est un oiseau. C'est Zeus. Alors qu'est-ce que Zeus vient faire en forme de cygne avec les dents ? Il se passe quoi ? Zeus s'est accouplé à les dents. Et pourquoi ?
C'est Castor et Pollux.
C'est tout ? Mais bon, ça ne dit pas quand même pourquoi Zeus s'y s'est métamorphosé en cygne.
C'était une nymphe de l'eau, non ?
Pardon ?
Pour échapper à sa femme.
Ça, Zeus, dès qu'il pouvait. Effectivement.
C'était une nymphe aquatique, non ?
Pas spécialement aquatique, non. Mais pourquoi est-ce qu'il a souhaité approcher l'Eda ? Parce qu'il est tombé amoureux de l'Eda. Il tombe amoureux de beaucoup de monde, Zeus. Seulement, l'Eda, elle était un peu farouche. Elle ne se s'est pas approchée comme ça. Et vous savez quel stratagème il a trouvé ? Zeus. Parce qu'il aurait pu arriver en disant bonjour, l'Eda, c'est moi que voilà. Zeus, c'est quand même Zeus. Il n'a pas fait ça. Parce que l'Eda, ça va se tenir.
Elle aimait les oiseaux.
Elle aimait les oiseaux, sans doute. Pardon ?
Mais il était blessé, non ?
Non, mais il aurait pu l'être. Zeus, il est accompagné de quoi ? Il n'est jamais tout seul, Zeus. Il y a toujours quelqu'un avec lui. Enfin, un animal.
Un aigle.
Et bien, Zeus a fait. Zeus s'est transformé, parce que Zeus, il peut faire tout ce qu'il veut. Il s'est transformé en cygne. Il a demandé à son aigle de faire semblant de l'attaquer, Et donc, Léda, voyant que le bon cygne était attaqué par l'aigle, a souhaité protéger, n'est-ce pas, le cygne de l'aigle. Hein. Et le cygne, Zeus, évidemment, en a tiré profit. Ce qui fait que 9 mois plus tard, Léda a pondu 2 œufs, parce qu'évidemment, quand on s'accouple avec un cygne, on fait 2 œufs. Hein. Donc, elle a pondu 2 œufs, et dans un œuf, il y avait Pollux, dans l'autre, il y avait Castor, mais il y avait 2 autres personnes, d'ailleurs.
Deux sœurs.
En fait, c'est 2 faux jumeaux à chaque fois.
C'est
Clytemnestre. Oui, Clytemnestre, et puis. Et puis encore quelqu'un qui est très lié à la guerre de Troie.
Hélène.
Dans un œuf, il y avait Hélène et Pollux ou Castor, et puis dans l'autre, Pollux ou Castor et Clytemnestre. Alors, il y a plusieurs autres versions qui changent là, mais voilà, c'est cet épisode-là. Hein. Alors, ça, c'est une sculpture là aussi très célèbre, réalisée d'après un original d'un artiste appelé Timothéos. Donc vous voyez, à chaque fois on connaît assez bien qui a fait l'œuvre originale, sauf qu'on connaît rarement les originaux, mais on connaît les copies réalisées plus tard. Et ça
ben, c'est Athéna.
Athéna, ça pas prendre. Hein. Athéna, vous la reconnaissez à quoi?
À son casque.
Là, il y a vraiment
l'égide.
Et son égide. L'égide, c'est quoi?
La peau du lion.
C'est la peau du lion, mais sur laquelle il y a quoi?
Ah ben, il y a des choses qui...
Il y a surtout une chose d'importante sur l'égide.
Ah oui, la tête de Méduse.
La tête de Méduse. Méduse, vous pouvez me rappeler ce que c'est? Méduse, c'est quoi?
Quand on l'a frappé, on est dans une statue,
je ne sais plus
quoi.
C'est une gorgone?
Oui, Méduse, c'est évidemment une des gorgones. Les gorgones, c'est qui?
Des vilaines
personnes. Elles avaient quelque chose de très très vilain, les gorgones. C'est des cheveux en serpent. Hein. Ça, c'était quand même compliqué. Les gorgones, c'est un peu difficile. Hein. Voilà. Et une des gorgones s'appelait Méduse. Effectivement, si vous les regardez, vous étiez pétrifié. C'est pas formidable. Mais oui, on vous dit Méduse, effectivement. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a sur sa poitrine comme ça une tête de gorgone, une tête de Méduse?
C'est un effet serpent.
C'est un effet protecteur.
Ah oui, d'accord, mais enfin, c'est arrivé comme ça. Une Méduse, je lui ai dit, tiens, je vous donne la tête.
Ah non,
mais moi, vous tout me dire.
On lui a offert.
Qu'est-ce qu'il lui a offert?
Alors, qui c'est qui a
offert?
Hercule?
Non, pas
non,
Phaistos.
Non,
Phaistos,
c'est pas lui.
Persée. Mais alors, comment est-ce que Persée a fait pour tuer Méduse? Parce qu'à chaque fois qu'on regarde Méduse, on est pétrifié. Voilà. Athéna avait prêté à Persée son bouclier. Comme ça, Persée, avec le bouclier d'Athéna qui fait miroir, rappelez-vous, on voit tellement bien dans le bouclier que quelquefois, Athéna, elle se fait battre dans son bouclier. Vous rappelez tout à l'heure, j'en ai déjà parlé. Hein. Eh bien, avec son bouclier, qu'elle a prêté à Persée, Persée a pu tuer Méduse sans la regarder directement. Une fois qu'il l'a tué, il lui a coupé la tête et il a donné la tête à Athéna. Comme ça, Athéna a été en super. Elle est dotée de pouvoirs extraordinaires parce qu'elle avait la tête de Méduse sur son giron, sur ce qu'on appelle l'égide. D'accord? Voilà. Alors, avec cette. Pardon? Voilà. Alors, il y a une chose extrêmement intéressante avec cette sculpture. C'est ça. Qu'est-ce que je vous montre là?
C'est toujours un peu ça.
Elle n'est pas guerrière.
Je vais vous montrer la photo suivante. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce rapprochement de 2 photos?
Mais la main sur la hanche est étonnante.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Mais elle est dans une position d'offrande, là. Parce qu'elle a la main tendue.
Ah, offrande.
Ou de pacification.
Ou de désignation. Oui. Ou elle désigne quelque chose.
Dans un cas, on a une Minerve qui tend un bras, qui portait peut-être quelque chose dans sa main d'ailleurs, et qui a l'autre bras le long du corps. Dans l'autre, elle a la main sur la hanche et l'autre bras le long du corps. On a l'impression qu'elle ne porte rien du tout. Bien. OK. Donc, les bras changent de position. À part ça...
Elle a l'air sympa, elle n'a pas guerrière du tout.
Oui, effectivement, dans les 2 cas, ce n'est pas une Athéna mais guerrière. Hein. Absolument.
C'est plus conciliant.
Ouais.
C'est pas lié encore au concours de beauté
Non. À gauche, c'est en quelle matière?
Bronze.
Et à droite?
Marbre.
Qu'est-ce que ça vous inspire?
Parce qu'il y a une copie de l'autre. Pas une copie, non. Non, une interprétation singulière. Là.
Alors, à droite, on a quoi ? On a une copie.
Une copie, oui.
Et à gauche ?
Un original.
Donc, on a une statue originale à gauche, en bronze. On a une copie à droite.
Ça, c'est pas une vraie copie.
Et quel est le lien entre les deux, s'il y en a un ?
Il y a quand même beaucoup de points communs.
Bah, le vêtement.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Le vêtement.
Ouais, beaucoup de points communs. On regarde le costume, les drapés sont identiques.
Ouais.
Oh oui, mais l'expression des bras est totalement différente.
Pas tellement.
Oh. Ben, à part les bras, tout le reste est pareil. Si vous enlevez les bras d'un côté de l'autre, vous avez le casque, oui, parce que dans la statue à droite, le cimier du casque doit être cassé, tout simplement.
Oui.
Parce que d'ailleurs, c'était sûrement un élément rapporté. Hein, sculpter un cimier dans du marbre, bon, c'est quand même pas simple. Hein. Donc souvent, c'est un élément rapporté qu'on mettait à la fin sur la statue. Donc souvent, c'est perdu, c'est cassé, perdu, etc. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, et c'est rarissime ça, c'est que vous avez là, et l'original, et la copie. D'accord ? Ça n'arrive quasiment jamais. Parce qu'à chaque fois, je vous ai dit, tiens, là, on a une statue en bronze. Vous rappelez tout à l'heure les guerriers que vous avez pris pour un dieu, par exemple, hein ? Hein, les bronzes de Riyadh, vous vous rappelez de ça, hein ? Hein ? Eh bien, ce sont des statues originales, mais on n'a pas du tout de copie. Et souvent, on a l'inverse, beaucoup plus souvent, c'est-à-dire qu'on a des copies en marbre, et on n'a pas les originales en bronze. On a soit l'un, soit l'autre. Et bien là, on a les deux. Là, on a à gauche l'original en bronze, et à droite, la copie en marbre. Alors bien sûr, le copiste, à l'époque romaine, quand il a copié ça, il l'a fait en changeant des petites choses. Il y avait un bras comme ça, il l'a mis comme ça, tout simplement parce que quand on sculpte quelque chose dans le marbre, quand vous avez sculpté votre statue en marbre, vous verrez, faire un bras comme ça, c'est pas simple, quoi. Hein. Donc finalement, pour être sûr que le bras ne casse pas au premier moment venu, eh ben, il lui a mis le bras un peu dans l'autre sens pour que ça rejoigne la hanche et que ce soit moins fragile, tout simplement. Hein. Et idem au niveau du bras gauche, où il lui a trouvé un peu, encore que si la joue la retournait, c'est presque pareil, hein, une gestuelle différente. Parce que les copistes, quand même, quelquefois, ils changeaient un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Les copies romaines qu'on voit sont quelquefois un petit peu changées par rapport aux originaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, vous voyez un phénomène rarissime. À vrai dire, je ne sais même pas s'il y a d'autres possibilités de montrer l'équivalent avec d'autres sculptures. C'est que vous avez à gauche l'original et à droite la copie. En règle générale, ça n'existe pas. Parce que tous les originaux, presque, ont disparu. Ou quand on en a, et je vous en ai montré, hein, rappelez-vous le Poséidon tout à l'heure, vous savez, du Capsunion, le grand, là, qui est peut-être un Zeus. Bah, c'est un original, mais on n'en connaît aucune copie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc soit on a des originaux, on n'a pas les copies, soit on a les copies, on n'a pas les originaux. Là, vous avez l'original et la copie. Et ça, c'est rare ici. Donc c'est un des rares cas qui vous montre comment travaillait ce lien, si vous voulez, c'était les venues entre œuvre originale et copie. Ok ? Et ça ?
C'est très joli.
Bah, Diane.
Diane ?
Enfin,
Artémis. Qu'est-ce qui prouve que c'est Artémis ?
Elle va chercher une flèche sans carquois.
Mais non, elle
n'a pas là.
Mais il n'y a pas de. Oui, puis il n'y a pas de carquois, évidemment.
Alors c'est pas elle.
Mais
il
n'y a pas une pomme dans la main ?
Non.
Sa main droite tient.
Non, on va dire ce qui fait qu'on pense, et vous avez raison que c'est Artémis, c'est son habillement.
Ouais.
Parce qu'effectivement, Artémis, comme les Amazones, n'a pas une robe longue, si j'ose dire. Elle n'est pas nue non plus, elle est toujours vêtue, mais vêtue avec une robe courte. Parce qu'il faut aller vite, il faut courir. Artémis, elle ne reste pas assise sur les nuages. Hein. Artémis, elle bouge, elle va courir après les cerfs, les daims, etc. Donc, Artémis, il faut qu'elle ait une tenue légère, mais une tenue quand même. Hein. Parce qu'Artémis est une déesse chaste, hein. Donc elle ne montre pas ses nudités. Hein.
Elle accroche son vêtement, peut-être.
Elle accroche son vêtement. Elle sort sans doute du bain et elle accroche son vêtement. Ce qu'on appelle la Vénus ou l'Artémis ou la Diane dite de Gabi, parce qu'elle a été prouvée à Gabi. Et donc, c'est sans doute une œuvre réalisée d'après Praxitèle, mais de ça on parlera un peu plus tard. Et là, toujours côté iconographie, qu'est-ce que ça représente ?
Apollon.
Apollon, oui. C'est Apollon. Pourquoi d'ailleurs, a priori ?
C'est le désert.
Mmh. Il y a, alors, il y a un lézard, effectivement. Ouais. Mais quel est le lien entre Apollo et un lézard? C'est le lézard qui fait que ça représente Apollon?
Plutôt l'arbre.
L'arbre? Il y a un lien entre Apollon et l'arbre? Apollon, c'est le dieu de quoi?
Du soleil.
De la musique.
Oui,
la
poésie. Ouais. Oui, c'est un dieu qui est lié aussi à la beauté. Hein. Et alors, il fait quoi, là?
Il attrape le lézard.
Pardon?
Il discute avec lui.
Il discute avec le
lézard. Il pense, il réfléchit.
Il regarde le lézard. Mais avec sa main, il fait quoi?
Il veut tenir quelque chose.
Il s'apprête à le prendre, oui. Il veut l'attraper.
Il veut attraper le lézard. Et pourquoi?
Un peu bizarre.
Pourquoi? Oui, c'est bizarre. Le lézard, c'est quoi dans, pour l'Antiquité, notamment pour les Grecs, par exemple?
L'immortalité.
L'immortalité?
Ah oui.
Je sais pas, hein. C'est l'immortalité, le lézard? Il vient d'où, le lézard? Il vient de la Terre. Et donc, c'est un dieu qui évoque quoi pour les Grecs, venant de la Terre, le lézard?
Hadès.
Pardon?
Hadès.
Hadès, oui. Autrement dit?
L'enfer.
L'enfer. C'est pas terrible, un lézard. Hein. Un lézard, il vient de la Terre comme quel autre animal, par exemple?
Le serpent.
Hein. Ça, c'est des animaux pas terribles, terribles. Hein. Donc là, il fait quoi avec le lézard, à votre avis?
Il veut le chasser.
Il veut le chasser, un peu plus même.
Il veut le tuer.
En fait, là, Apollon, il est sauroctone. C'est-à-dire qu'il est tueur de lézards. Sauroctone. Parce que le lézard, c'est pas bien. Le lézard, ça vient du sol, ça vient de la terre, ça vient de l'enfer, ça vient du mal, ça vient du... Vous voyez, de l'Hadès, comme on dit. Donc, il tue le lézard, c'est-à-dire qu'il est... il protège, en quelque sorte. Hein. Il tue le mal. C'est Saint-Georges. Hein. Voilà. Apollon sauroctone, Apollon tueur de lézard. Ça, c'est une œuvre qui est une copie romaine, comme d'habitude, d'après l'original d'un sculpteur qui s'appelle Praxitèle. On reparlera de ça, mais plus tard. Je pensais qu'on en parlera aujourd'hui, mais ce sera pour plus tard.
Hermès.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait, là?
Il tient Dionysos.
Ouais, et pourquoi?
Parce qu'il l'a sauvé.
Parce qu'il s'est passé quoi? Il est né comment, Dionysos?
De la cuisse
de Jupiter, absolument. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit, oh, celui-là, il se croit né de la cuisse de Jupiter. Hein. Ça vient de la mythologie grecque. Hein. Dionysos, il est né de la tête de la cuisse de Jupiter. Qu'est-ce qui est né de la tête de Jupiter?
Athéna.
Hein. Lui, c'est de la cuisse. Hein. Il est né de la cuisse de Jupiter. Et alors, une fois qu'il est né?
Il fallait l'élever.
Et alors, c'est Zeus qui l'a élevé?
Non.
Zeus, il, en général, donne ça. Il donne ça à qui? Au DS, par exemple, Vénus va élever.
C'est pas là. Comment ça s'appelle?
Non, mais non, ça va être une humaine, probablement.
Des humaines?
Peut-être.
Peut-être.
Des animaux?
Des animaux? Ah, oui, il peut y avoir des animaux, oui.
Une chèvre.
Oui, par exemple, Zeus lui-même avait été élevé largement avec une chèvre, un maltais. Bon, il y avait des gens très bien pour élever les enfants de Zeus. C'est assez pratique. Des nymphes. Vous savez, des nymphes, il y en a pas mal hein, dans les forêts. Voilà, sur le mont Ida, par exemple, il y en a pas mal. Donc Zeus, une fois qu'il avait des enfants, il les donnait aux nymphes sur le mont Ida, et puis ça allait. Hein. Enfin, il fallait quelqu'un pour l'amener. C'était qui amenait ça?
Hermès.
Hein, vous savez, qu'est-ce qu'il a d'Hermès? Qu'est-ce que c'est Hermès?
Il a des petites ailes.
Il a des petites ailes. C'est pas dit que vous lui donnez, il peut voler sur le mont Ida pour vous emmener Dionysos. Parce qu'une fois que Dionysos est sorti de la cuisse de Jupiter, il fallait en faire quelque chose. Et c'est pas Dionysos qui allait aller sur lui-même, sur le mont Ida, avec les nymphes. Donc il l'a donné à Hermès, qui a volé sur le mont Ida pour aller emmener Dionysos auprès des nymphes. Tout simplement. Donc évidemment, vous avez là une statue qui est peut-être, parce que maintenant c'est très remis en cause, peut-être de, ou plutôt d'après, ou peut-être même pas d'après Praxitèle, toujours ce sculpteur dont on parlera une autre fois, et qui présente Hermès tenant Dionysos enfant. Bien. Et ça,
c'est
Vénus. Vénus, c'est-à-dire
Aphrodite.
Ouais. Voilà.
Avec sa
décidément, forme. Vous voyez qu'elle représente, elle ressemble un peu à notre Aphrodite de Milo tout à l'heure. Ouais, hein. Effectivement, belle, etc. Voilà. Donc très souvent, effectivement, ce genre de déesse largement dénudée, c'est Aphrodite. C'est la fameuse Aphrodite d'Arles, certainement d'après Praxitèle. Et là, toujours iconographie, c'est qui ça? Un éphèbe, mais un éphèbe, ça veut dire quoi?
Jeune homme.
Jeune homme, hein. C'est un peu comme Kouros, mais on attribue le mot Kouros plutôt à des sculptures plus anciennes et on va dire plus, entre guillemets, rigides, moins plaisantes, pourrait-on dire. Là, c'est plus un éphèbe. Alors, ça veut dire jeune homme, mais ça ne dit pas qui est jeune homme. C'est qui?
Oui, un sportif.
Et il est sportif de quoi?
Lancer.
Lancer de poids. Donc à droite, il tient un poids qui va lancer.
Non, c'est pas la position.
Non. C'est la position de quoi, ça?
Il l'a lancé.
Pardon? Ah, il l'a lancé. Il l'a lancé.
Oui, il l'a lancé.
Il est pris dans la position du lanceur de poids.
Non.
Il n'a pas la position. Ben, je crois pas, non.
Avec l'autre bras, non. Mais c'est encore un dieu.
Ah, c'est un dieu, alors?
Peut-être.
Donc, mortel ou dieu? Mortel.
Mortel.
Donc, plutôt un athlète ou encore quelqu'un comme ça?
Oui.
Oui. Ouais.
Ou un autre Hermès.
Ah, ou un autre Hermès.
Mais il a pas d'aile. Hein. Il a pas d'aile au pied.
Donc en fait, on reste un peu entre deux, quoi. Hein. Soit un dieu, soit un mortel.
Mm-hmm.
Un demi-dieu. Okay,
il a des muscles.
Un demi-dieu. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut les appeler les demi-dieux? Ils ne sont pas des dieux, mais pas tout à fait des mortels.
Des héros.
Un héros. Bah, à vrai dire, on n'en sait pas plus que vous. C'est-à-dire que c'est effectivement soit un dieu, soit un héros. On l'appelle l'éphèbe d'Anticythère. On a trouvé Anticythère, mais on ne sait pas qui c'est.
Ouais.
C'est sûrement pas un mortel tout court, parce qu'en effet, on ne voit pas très très bien ce geste, à quoi il signifierait, si c'était un mortel habituel, je dirais. Il tient quelque chose. On a pensé, par exemple, justement à Persée tenant la tête de Méduse, vous voyez. On a l'impression qu'il tient quelque chose, hein, puis que cette chose aurait disparu, quoi. Hein. Et en effet, on a l'impression qu'il tient. Hein. Alors, ça peut être Paris tenant une pomme, mais pourquoi il la tient si haut, comme ça? Bon, moi, quand je donne une pomme à Vénus, ça m'arrive tous les jours, c'est comme ça. Hein. Là, vous voyez, bon. Donc, on a pensé à Persée, c'est l'hypothèse souvent la plus retenue, Persée tenant la tête de Méduse. Sauf que, puisqu'on a reconnu, enfin, retrouvé la tête de Méduse, pour l'instant, c'est une conjecture qui n'a rien de sûr.
Héros,
c'est qui? Pardon?
Le dieu de l'amour.
Voilà, et qui accompagne qui?
Méduse, enfin Aphrodite.
Aphrodite. Ça, c'était facile, hein? C'est Héros dit de Thespie, parce que Troie est Thespie, qui est sans doute une reprise d'après une œuvre de Lysippe, dont on reparlera plus tard.
Ça, c'est Hercule.
Héraclès.
Oui. Et vous le reconnaissez à quoi?
La massue.
La massue, et puis quoi d'autre?
La barbe. La musculation.
Oui, alors sa barbe, c'est là. La massue, et puis quoi d'autre?
Sa musculation.
La peau. La peau du lion de Némée. Le lion de Némée, c'est un de ses... Il a fait des centaines de travaux, mais dont 12 qui sont plus célèbres que les autres. Et dans les 12 fameux travaux, il y a le fait qu'il a tué le lion de Némée. Et après, il s'est revêtu de sa peau en permanence. C'est donc bien lui, hein, Héraclès, avec la peau du lion de Némée. On l'appelle l'Hercule Farnèse, parce qu'il a appartenu à la collection des Farnèses. Grande famille romaine. C'est beau ça, hein.
C'est splendide, ça.
Oh.
Pardon ?
Une bacchante,
ouais. C'est quoi les bacchantes ?
Des prêtresses
de Dionysos. Des prêtresses de Dionysos, toujours prêtresses uniquement ?
Ouais,
enfin, voilà, j'accompagne Dionysos. Hein. On peut leur donner un autre nom, surtout en Grèce.
Les ménades.
Hein. C'est donc plutôt une ménade. Qu'est-ce qui vous montre que c'est sans doute une ménade ou une bacchante ?
En arrière, la tête.
Oui, mais qui veut dire elle danse.
Elle danse.
Et elle danse. On n'est pas obligé de danser avec la tête en arrière. Quoi.
Non, puis elles sont un peu alcoolisées.
Eh voilà. Hein. Quand on accompagne Dionysos, Bacchus à Rome, en général, on n'a pas bu que de l'eau. Quoi, hein. Donc les ménades, en général, sont un peu libres. Et quand elles dansent, elles ont la tête en arrière, les cheveux défaits sont à moitié dénudés, comme vous le voyez. Donc là, c'est une ménade dansante. Effectivement, un peu excité, ivre d'alcool, elle est. Voilà. D'après Scopas, qui est un artiste dont je pense nous aurons le temps plus tard de reparler.
Encore
Héraclès.
Encore qui ?
Héraclès.
Avec quoi ?
Avec le Lamassu et le lion de Némée.
Lamassu et.
Le lion de Némée.
De
Némée.
Voilà. Facile.
Toujours d'après
Scopas. Toujours d'après Scopas. Ouais, un artiste important, oui, un sculpteur important. Mais je pensais qu'on en parlerait aujourd'hui, mais j'avais vu trop juste.
Il y a trois générations, non ?
Trois générations ? Le père, le fils, le petit-fils ?
Peut-être pas.
Il y a un animal.
Un chien.
Il y a un chien en bas.
C'est un philosophe.
Mais de Corsatas.
Alexandre. C'est un philosophe, Alexandre.
Quelle est la différence entre ce que je montre là et ce qu'on a vu avant ?
Oh, c'est de la
voilà, c'est un rond-bosse, c'est un relief, c'est donc pas une statue. Hein. Les autres pièces étaient des statues, c'est-à-dire qu'on pouvait tourner autour. Là, c'est un relief. Vous allez derrière, il n'y a rien, c'est droit, c'est plat. Hein. Ça, c'est une différence fondamentale. Ça, c'est un relief, les autres étaient des statues. Les autres, c'est sculpté de tous les côtés, pas là. Alors, ce relief, il représente, vous l'avez dit, trois personnages. Un personnage plus âgé à droite, un peu cassé par des mutilations à droite. Un jeune homme à gauche et en bas à gauche, un petit garçon qui a l'air plus ou moins d'être assoupi. Et au pied du jeune homme, il y a un chien. Bien. Alors, dieu, mortel, héros... Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est pas du nouveau funéraire ?
Funéraire ? Donc ce serait une stèle funéraire. Eh bien, c'est une stèle funéraire. Et ce que vous avez là, c'est une stèle funéraire. On n'est plus du tout dans la mythologie. On est dans la stèle funéraire, dans l'art funéraire. Hein. C'est la stèle funéraire de ce personnage. Hein. C'est sans doute ici, donc c'est lui, hein, le défunt. Voilà donc sans doute un membre de sa famille. Là, c'est peut-être plutôt que son fils, peut-être plutôt un petit esclave. Hein. Et on appelle cette stèle la stèle du chasseur, parce que le chien est peut-être une évocation d'une activité qu'avait souvent le personnage, qui était peut-être spécialement chasseur, d'où le nom de cette stèle, la stèle du chasseur. Bon. C'est peut-être d'ailleurs une œuvre de Scopas, ce sculpteur dont on a vu tout à l'heure des œuvres via des copies. Sauf que là, c'est pas une copie, c'est-à-dire que c'est une stèle funéraire. Les stèles funéraires, c'était bien des stèles funéraires en pierre, hein, souvent en marbre d'ailleurs, sur les tombes, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on s'est pas amusé à en faire des copies, vous voyez, parce que... Et les stèles funéraires n'étaient pas en bronze, évidemment. Hein, d'accord ? Donc là, c'est bien un original. C'est pour ça que c'est quelquefois compliqué. On voit des choses qui sont de statuts différents. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? On voit des œuvres en marbre qui sont des copies romaines d'après des originaux grecs. On voit des originaux grecs en bronze dont on n'a pas quelquefois, en général, pas les copies. Quelquefois, on voit les deux. Rappelez-vous de votre Athénade tout à l'heure. Par parenthèse, il existe quand même des originaux grecs du 4e, 5e siècle en marbre qui sont des originaux quand même, même s'ils sont en marbre. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Donc je vous montre tout ça aussi pour vous montrer la... Le côté nuancé hein, de tout ça, mais il faut s'y retrouver après. Hein. Et je compte sur vous là-dessus. Homère.
Socrate.
Socrate.
Non,
il est trop
bon. Non, c'est Homère.
Platon.
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 Non. Bon. Un philosophe. En tout cas, un philosophe. Donc pas un dieu, non. Un mortel, mais un mortel célèbre. Ouais. Donc c'est quel genre d'œuvre ça?
Portrait.
Un portrait, hein, comme on a vu tout à l'heure avec qui déjà?
Avec Périclès.
Masque mortuaire, carrément?
Non.
Mais plutôt un portrait. Et un portrait qui a quel but, alors?
C'est toujours un peu idéalisé.
De garder les mémoires, oui. Vous êtes un adepte du philosophe en question, car c'est évidemment un philosophe. Vous avez ça chez vous, parce que c'est une manière de vous recommander du philosophe en question.
Aristote. Si on en voit plusieurs, on pourra peut-être les identifier.
Ah, je vous en montrerai sans doute d'autres, ouais.
Aristote.
Mais lui, c'est Platon.
Platon.
Sans doute par Silanion, qui est un sculpteur de ce soir. Alors, on va être obligé d'en rester là aujourd'hui. À vrai dire, j'avais pensé faire un troisième temps, hein, je vous l'avais dit d'ailleurs, on aurait essayé de voir chronologiquement comment tout ça fonctionnait. J'ai mal dosé la séance. Hein. Mais je pensais que vous connaissiez tous la Vénus de Milo, et j'avoue que... nous, on est là pour...
Oui, on se méfie de pièges.
Pardon. Ah oui, c'est un... Voilà.
On s'en méfie.
On avait peur pour lui dans le...
Alors, la troisième partie, je la remettrai dans une autre... On la verra quand même. Bah, écoutez, à la semaine prochaine. Hein. Et puis, bonne soirée.
Oui, je n'ai pas osé écouter, parce que je me suis dit, c'est sûrement...